Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, quand même, la table ronde à laquelle on vient d'assister n'est pas déconnectée de ce qu'on va discuter. Hein. Je ne vais pas la résumer, je m'en garderai. Et puis, Jean-François en a dit quelques mots. Mais au fond, ce qui a été discuté dans cette table ronde, c'est d'une certaine façon à la fois la cohérence de l'humain. Alors ça nous a amené peut-être un peu loin, mais aussi compétences et connaissances. Ceux qui ont des enfants savent que ce n'est pas exactement la même chose hein, par rapport au sujet qu'on aborde. Aussi, une question qui va être peut-être quand même très importante pour nous, qui est les plateformes comme un acteur politique oublié ou ignoré des États. Et donc, on nous a même amené à appeler éventuellement à prendre le pouvoir dans ces plateformes. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, globalement, le fait qu'il y a, et là peut-être qu'on reviendra après sur différents aspects autour de cela, le fait que l'enseignement supérieur et la recherche a une responsabilité, que peut-être elle n'investit pas suffisamment pour peut-être aller vers ce qui a été appelé le lettré du numérique. Alors, la table ronde qu'on va vous proposer a finalement un titre qui est « Comment les réseaux politiques et les sphères d'influence se saisissent d'Internet » et en précisant finalement les enjeux et les risques. Donc, on va aborder ça sous différents angles, mais globalement, pour le résumer très très rapidement en introduction, il s'agit finalement, et c'est encore une fois pas déconnecté de ce qu'on vient d'entendre, de voir comment des organisations politiques, des groupes, des associations diverses ont pu se saisir des médias sociaux, pour faire simple, et comment éventuellement cette utilisation, par son ampleur notamment, peut modifier la donne politique. Alors on pourra discuter, et les trois orateurs que je vais vous présenter dans quelques instants ont évidemment des compétences multiples dans ce domaine. Comment est-ce que c'est vrai ça? Quelles sont les traductions de cela dans la politique nationale et internationale, même si évidemment on a à l'esprit quelques exemples. Quelles questions et quels enjeux ce changement de paradigme suppose? Et puis ensuite on essaiera d'aborder évidemment quelques éléments de réflexion sur comment l'enseignement supérieur et la recherche globalement peut être impliqué. Alors, comme président d'université, j'ai deux avantages ou inconvénients. J'ai peu de compétences techniques ou même politiques dans le domaine, et en même temps, je peux être interpellé à tous les moments, comme ça a été fait tout à l'heure, puisqu'on peut nous renvoyer à nos responsabilités dans le domaine. Voilà. Ceci étant dit, donc, je vais vous présenter les participants. Donc, Thierry Vedel, qui est un chercheur du CNRS au CEVIPOF, hein, que tout le monde connaît, donc qui intervient à Sciences Po. Il est aussi chercheur associé à quelque chose qui peut-être il nous présentera, qui s'appelle Oxford Internet Institute. Et puis, je voulais aussi mentionner, parmi de multiples autres choses, le fait qu'il a coordonné une action soutenue par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Mediapolis et qui touche à l'information politique et à la citoyenneté à l'ère numérique. Le deuxième participant, c'est Rudi Redstadt, qui est diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence, qui est très actif, et si vous voulez en avoir une idée, ben vous pouvez aller sur Internet, dans le domaine, donc très actif dans les médias, dans le domaine notamment de la théorie du complot, et en particulier, il dirige l'Observatoire du conspirationnisme, dont le titre anglais est peut-être courant, est Conspiracy Watch, et ça aussi, je vous incite à aller le voir, c'est très intéressant. Et puis notre dernier participant, c'est Henri Isaac, qui est donc docteur en sciences de gestion, un enseignant à Paris-Dauphine, donc à PSL, j'imagine, et qui est un spécialiste de la transformation numérique, et qui notamment préside une structure dont il nous parlera, qui s'appelle Renaissance numérique. Alors, un petit peu différemment de ce qui vous a été proposé dans la présente table ronde, ce que j'ai proposé à l'instant aux participants, c'est tout simplement en fait qu'ils présentent assez succinctement quelle est leur activité, parce que là j'ai donné finalement des titres, mais qu'est-ce qu'ils font comme citoyens, comme professionnels dans le champ qui nous intéresse. Et je vais commencer par donner la parole à Rudi Redstadt.
Oui, merci. Alors d'abord, je suis venu à la question du conspirationnisme par un intérêt pour le négationnisme et parce que j'estimais au tournant des années 2005 hein, que le net n'offrait pas suffisamment de ressources sur ce phénomène conspirationniste qui commence à devenir important, à prendre de l'ampleur, et de ressources pour résister à ça. C'est-à-dire à la fois, l'idée était de mettre à disposition du plus grand public, du plus large public, eh bien des ressources savantes sur le phénomène, parce que c'est un phénomène qui est étudié en langue anglaise depuis de nombreuses années maintenant, un peu plus récemment en France, et sur lequel on sait deux, trois choses maintenant. Et puis, il s'agissait aussi de réinscrire ces théories du complot dans le temps long de l'histoire des idées politiques, c'est ma formation initiale, et puis de montrer que derrière des théories du complot, il y a des théoriciens du complot, que ces choses-là ne tombent pas du ciel et qu'il convenait d'interroger. Donc j'ai créé un site en 2007 qui s'appelle, vous l'avez dit, Conspiracy Watch. Et puis il y a eu, si vous voulez, ces années-là ont été jalonnées par un certain nombre d'événements ou de phénomènes. D'abord l'apparition des réseaux sociaux, je veux dire, clairement il y a eu un avant et un après Facebook. Hein. Et puis très clairement une prise de conscience politique, sociale et au plus haut niveau de l'État avec les attentats de janvier 2015. Et je pense que le dernier jalon de cette histoire, c'est l'élection de Donald Trump qui, pour la première fois quand même, est la démonstration qu'on peut diffuser, faire une campagne avec des théories du complot et non seulement être élu, non pas en dépit des théories du complot qu'on a aidé à répandre, mais avec aussi. Et voilà.
Très bien. On va passer la parole à Henri Zac, peut-être pour nous faire une présentation aussi rapide de ce qu'il fait.
Alors, ce que je fais, c'est que je suis enseignant-chercheur et je suis aussi citoyen. Et je me suis engagé dans une association donc, qui est un think tank qui contribue à fabriquer des idées et qui rassemble des start-up, des enseignants-chercheurs et des entreprises. Sur ce sujet, pour interpeller le politique, cette association, elle va bientôt fêter ses 10 ans. Elle a été créée en 2007 par un constat d'un certain nombre d'acteurs d'un impensé politique sur le numérique et qui réclamait à l'époque la création d'un ministère en charge de ces questions, qui a conduit à un secrétariat d'État qui n'a jamais été, quelles que soient les majorités qui se sont succédées, à être remis en question, malgré les limites que cette action publique peut avoir. Et donc, j'ai été élu il y a un an à la présidence de ce think tank, après y avoir travaillé depuis quasiment maintenant 8 ans, où notre ambition est simplement de participer au débat sur ces sujets en interpellant le politique et ou les décideurs en général, hein, parce que notre action, elle porte aussi bien auprès du politique, que ça soit la représentation nationale dans ses différentes composantes nationales ou locales, mais aussi les associations professionnelles, puisqu'on travaille sur des sujets comme la santé, l'agriculture, la culture, la démocratie, et qu'il nous arrive aussi beaucoup de travailler avec des think tanks. On a travaillé avec, par exemple, la Fondation Jean Jaurès récemment, Terra Nova, l'Institut Montaigne, et puis des syndicats professionnels sur certains sujets. Donc, j'ai une petite idée depuis 10 ans de ce que le politique comprend de ce qui se passe avec le numérique ou pas. Et j'ai surtout une petite idée de ce que, en France, il se passe autour du numérique dans la sphère publique. C'est-à-dire que l'action de l'État français depuis de très nombreuses années n'a pas laissé place à une société civile. Ce que le politique est aujourd'hui incapable de comprendre, c'est qu'une grande partie des citoyens que nous sommes aujourd'hui a une capacité à s'exprimer, à s'organiser, à se rassembler, à discuter. Cette démocratie discursive qui émerge dans l'espace politique français, le politique français n'y est pas prêt parce que la place que la société française a faite à la société civile est très limitée. Et donc des institutions comme les think tanks que j'ai l'honneur de présider peinent finalement à exister dans le panorama de la construction d'une réflexion sur les politiques publiques en France sur le sujet du numérique, qui est notre préoccupation. Et on voit bien que justement, on a un modèle d'État qui, tout en voulant devenir une plateforme et en voulant être plus ouvert à la société, finalement peine à l'être dans la mesure où des intermédiaires dans le débat d'idées que nous sommes, finalement, le politique n'arrive pas à y travailler avec eux.
Très bien, merci beaucoup. Thierry Védel, donc sur un peu une présentation générale.
Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille au Centre de recherche politique de Sciences Po et depuis une quinzaine d'années, je travaille plus particulièrement sur les relations entre Internet et politique. D'abord en observant, en analysant la façon dont l'Internet est utilisé à des fins politiques. Alors, ça a été d'abord par les municipalités, les communes, puisque au début des années 2000, c'était un petit peu les acteurs de la démocratie électronique, également par les partis politiques et aussi durant les campagnes électorales. Et progressivement, je me suis de plus en plus intéressé surtout aux pratiques informationnelles des citoyens en matière politique, à l'ère numérique, c'est-à-dire j'essaie de comprendre comment aujourd'hui on utilise les ressources des réseaux numériques pour exercer des formes de citoyenneté. Et là, peut-être deux ou trois choses qu'il faudrait rappeler. D'abord, dans la plupart des démocraties, nous ne sommes citoyens que par intermittence et les citoyens actifs représentent souvent une minorité de la population, autour de 10 à 20% de la population. Beaucoup de citoyens ne recherchent pas véritablement beaucoup plus d'informations sur le monde qui les entoure, mais cherchent au contraire à simplifier le monde qui les entoure et en permanence à filtrer l'information qu'ils reçoivent. Il y a quelque chose aussi peut-être plus récent qui est apparu, et on pourra peut-être en parler en relation avec les réseaux sociaux. On sent de plus en plus, dans beaucoup de démocraties, une demande de verticalité et non pas une demande d'horizontalité, c'est-à-dire l'interaction entre citoyens. Mais au contraire, il y a même quelque chose d'assez inquiétant dans les enquêtes qu'on fait, une demande d'hommes forts, d'autorité de plus en plus forte. Voilà un petit peu quelques mots que je voulais dire.
Parfait. Alors, ce que je vous propose, mais évidemment, on a échangé un petit peu au préalable avec les participants à la table ronde, c'est peut-être, et ça c'est bien évidemment connecté avec ce qui vient d'être dit, d'essayer d'aborder un premier point assez global, que vous aborderez comme vous le souhaitez, d'une certaine façon, c'est est-ce que finalement on a, à travers ce qui a été évoqué déjà longuement ce matin, l'Internet, les réseaux sociaux, la transformation numérique telle qu'elle est vécue par les citoyens, est-ce qu'on a une démocratie renforcée ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous accepteriez ou... Et d'une certaine façon, par rapport à cela, quelque chose qui a déjà été abordé, puisqu'on a abordé finalement les plateformes comme des acteurs politiques oubliés ou négligés par les États, est-ce qu'on peut parler de la neutralité des réseaux ? C'est-à-dire comment, finalement, est-ce qu'il y a un filtre ? Comment il peut s'exercer ? Comment il s'exerce ? Peut-être on peut commencer par Thierry. Sur cette question donc de l'ambivalence d'Internet,
voilà l'ambivalence de l'Internet, c'est un thème qui me tient à cœur, et tout à l'heure nos collègues bordelais évoquaient Jacques Ellul, qui a écrit de très belles choses sur cette notion, c'est-à-dire que la technique en soi, elle n'apporte ni le bien ni le mal, mais en même temps le bien et le mal, et je crois que c'est intrinsèquement lié et on peut pas séparer l'un ou l'autre. On peut pas dire on va utiliser l'Internet uniquement pour faire de belles choses et pour promouvoir la démocratie, en même temps l'Internet est utilisé pour par les ennemis de la démocratie, pour propager des idées racistes, pour contrôler les citoyens, pour parfois à des fins totalitaires. Et c'est très difficile de séparer l'un et l'autre, parce que c'est le même réseau qui permet ça. Et toute la question, c'est de savoir si les autorités politiques ont une capacité d'action sur ces usages. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'instruments d'action qu'à une certaine époque où on parlait de politique industrielle dans les années 80. Aujourd'hui, c'est essentiellement à travers la réglementation, peut-être un petit peu à travers l'éducation, la sensibilisation des citoyens. Mais on a souvent quand même l'impression que les capacités d'action des autorités politiques sont limitées parce qu'on a affaire aussi à des réseaux transnationaux où les réglementations qu'on peut édicter dans un pays ne s'appliquent pas forcément. Il y a des questions de territorialité, de matérialité également, et aussi peut-être de volonté politique. Et aussi, on est face à des logiques économiques aujourd'hui qui sont extrêmement puissantes et qui s'emparent de nos façons de concevoir les choses. Et tout à l'heure, avec Henri, on parlait, enfin, j'évoquais le fait qui est assez stupéfiant qu'à Sciences Po, notre messagerie, elle est gérée par Google. On a une messagerie Gmail. Ce qui est assez... alors, à une époque, on nous aurait dit, vous êtes parano, pourquoi vous vous inquiétez? Mais on sait qu'on a raison d'être parano depuis Snowden. Et apparemment, la principale raison, c'est que ça coûte trop cher d'avoir des solutions nationales. Je crois que c'est ça le problème, et qu'on pourrait avoir des prestataires nationaux, un serveur national sur le territoire national, mais ça coûte trop cher, donc on préfère des solutions qui sont quand même inquiétantes, parce qu'on forme une partie des hauts fonctionnaires, de temps en temps des futurs ministres ou premiers ministres, voire président de la République. Voilà, donc les logiques économiques sont très puissantes.
Très bien. Peut-être, Érudit, sur... En fait, une des choses que vous avez évoquées là, dans votre propos liminaire, c'est que sur les thèmes que vous avez travaillé particulièrement, c'est-à-dire le conspirationnisme, le négationnisme. Les théories du complot existaient avant, elles vont perdurer, mais elles ont eu un élan particulier avec le développement de la communication numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement si ça change la nature, quel est du coup, comment ça impacte sur le citoyen, et d'une certaine façon, ça nous permet d'aborder la question justement de ce qu'on a appelé tout à l'heure, est-ce que c'est un renforcement ou pas de la démocratie, et comment faire que ça le soit, en fait?
Alors, il y a évidemment le conspirationnisme préexistait à Internet. Il y avait un conspirationnisme archaïque, avant sa phase de sécularisation au 18e, et même d'ailleurs un peu avant le 18e, puis au 19e et au 20e siècle. Et puis, il y a effectivement, on est entré avec Internet dans un nouveau régime de production de l'ignorance. Et je rejoins Thierry Vedel qui, effectivement, la technique, elle est neutre dans le sens où elle est ni bonne ni mauvaise, elle redistribue les cartes. Voilà, elle réécrit les règles du jeu. Et Internet, sur cette question-là, a réécrit les règles du jeu, puisque, si vous voulez, Internet agit comme une caisse de résonance de choses qui existaient déjà, qui étaient en circulation, mais qui avait une diffusion assez largement confidentielle. Pour vous donner un exemple, dans les années 90, si vous vouliez avoir accès au protocole des Sages de Sion, eh bien, il fallait vous rendre dans une librairie d'extrême droite, à Paris, par exemple, il y en a, ou bien être vous-même militant d'extrême droite, ou évoluer dans un certain milieu pour pouvoir avoir accès à ce type de littérature. Aujourd'hui, en deux clics, vous tombez dessus, et même sans faire forcément l'effort de chercher ce type de contenu, eh bien, vous pouvez très rapidement, parce que ce sont des contenus très regardés, les contenus conspirationnistes, on peut vous les suggérer sur YouTube, et vous pouvez effectivement, par la magie de l'enfermement logarithmique, ne pas en sortir, quoi. Donc clairement, accélération de ces choses-là. Sur l'accélération, c'est par exemple très... très marquant, il a fallu, c'est Gérald Bronner, le sociologue Gérald Bronner qui s'est livré à ce décompte, il a fallu 3 semaines après le 11 septembre 2001 pour voir apparaître les premiers arguments complotistes un peu sophistiqués sur le sujet. Le 7 janvier 2015, c'était le jour même. Vous avez un article de Thierry Messant qui tombe l'après-midi de la fusillade à Charlie Hebdo. Et le 13 novembre 2015, c'est pendant. C'est-à-dire que l'assaut contre le Bataclan est donné un peu après minuit 20, dans la nuit du 13 au 14 novembre, et les premiers tweets complotistes, c'est 22h35. Vendredi soir, 22h35, false flag, un coup du Mossad, etc. Avec le thème du complot sioniste omniprésent, évidemment. Donc une accélération, et puis vous avez aussi un effet de galvanisation de gens qui autrefois étaient isolés et qui aujourd'hui font communauté grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus seuls. Ils sont plus seuls, donc ça les renforce dans leur conviction, si vous voulez. Et puis, ils s'entretiennent en plus mutuellement dans ces choses-là. Songez tout de même que le premier blockbuster du web, c'est-à-dire la vidéo qui a été la, vu le plus grand nombre de fois, des millions de fois en l'occurrence. Elle date de 2005-2006. C'est la deuxième édition d'un film conspirationniste. Un film conspirationniste américain qui s'appelle Loose Change et qui développe tous les arguments complotistes existants sur les attentats du 11 septembre 2001. Songez également qu'en France, le premier bloc politique, depuis même plusieurs années, alors il oscille entre la première, deuxième et troisième place, mais il est assez fréquemment en première place, ça n'est autre que Égalité Réconciliation, c'est-à-dire le site, la plateforme web d'Alain Soral. Polémiste, antisémite, notoire, condamné d'ailleurs à ce titre-là. Égalité Réconciliation, ce n'est pas seulement le premier site d'extrême droite en France, hein, c'est le premier site complotiste, mais c'est un site qui, en termes de fréquentation, s'est situé plusieurs fois devant le site des Inroc, par exemple, de Télérama ou de La Poste. Ça peut paraître étonnant, mais c'est-à-dire qu'il a oscillé entre la 270e place et actuellement la 600e des sites français, tout type de sites confondus, évidemment, les plus fréquentés. Aux États-Unis, l'équivalent d'Alain Soral, c'est un animateur de radio, au départ, américain, qui appartient à cette droite conservatrice, pro-arme à feu, paléo-conservatrice, s'appelle Alex Jones, et qui est devenu, en une dizaine d'années, eh bien, d'abord, qui s'est taillé un petit empire du conspirationnisme, avec, en animant des sites internet, des chaînes web, des web-télé, et qui fait quand même plus d'un milliard de vues sur sa chaîne YouTube, avec 1 700 000 abonnés, qui a reçu Donald Trump, candidat républicain, en décembre 2015 dans son émission, et qui affirme, depuis l'élection de Donald Trump, avoir été appelé, après les élections, par Donald Trump en personne, pour être remercié, lui et ses auditeurs. Donc si vous voulez, on a là un phénomène qui n'est pas du tout anecdotique, qui n'est pas du tout marginal, même si effectivement, et ça la psychologie sociale nous le montre, il y a corrélation entre adhésion à des contenus conspirationnistes, adhésion à des théories du complot, et extrémisme politique, et radicalité politique. Donc voilà, j'espère que le tableau n'est pas trop plombant, mais il y a des raisons d'être préoccupé.
Voilà. Peut-être d'ailleurs une chose qu'on évoque pas souvent, je ne sais pas si vous aurez des choses à dire là-dessus, c'est que dans ce que vous dites, il y a aussi une forme de libération de la parole. Et cette libération de la parole, elle est pas seulement... Enfin, il y a les aspects que vous avez évoqués, finalement, on va plus vite vers l'information qui était autrefois interdite ou cachée, mais on a aussi une espèce de désinhibition, parce que d'une certaine façon, on n'est pas soumis, quand on communique par le web, au regard de l'autre. En fait, et on peut être aussi dans un cercle un petit peu fermé. On pourra revenir là-dessus. Pour faire peut-être le contrepoint, je vais passer la parole à Henri sur quelque chose que vous avez évoqué, qui est en fait ce que vous appelez la démocratie discursive. Alors, ça serait intéressant de nous expliquer ce que vous voulez dire exactement, pour deux raisons. D'abord, parce que vous évoquez une carence, finalement, démocratique de l'État, puisque ce que vous évoquez, c'est le fait que l'État ne donne pas, finalement, ou n'est pas en situation de donner, finalement, suffisamment la parole, notamment pour construire les politiques publiques aux citoyens, et que par ailleurs, les citoyens ont démontré des capacités à créer des éléments collectifs. Donc c'est intéressant peut-être de voir presque l'autre aspect, d'une certaine façon, comment les réseaux, le numérique, le web, peuvent participer d'un élément de construction peut-être de la vie collective.
Alors, il y a des tentatives qui sont maintenant, je crois, un peu connues et documentées. D'abord, on ne peut pas dire que l'État ne tente rien. En l'occurrence, Axel Le Maire a, au travers de son projet de loi, tenté de mettre en place une co-construction, certes très limitée à mes yeux, de sa loi, et elle tente de le poursuivre sur la rédaction des décrets d'application, ce qui est une innovation quand même assez intéressante. Il y a aussi un projet que porte Sciences Po sur la construction de la loi, qui est extrêmement intéressant pour suivre l'évolution des amendements qui sont déposés pendant le processus législatif, tant au Sénat qu'à l'Assemblée. Et ça, c'est aujourd'hui totalement accessible aux citoyens qui peut le suivre. Et puis, dans le cas de la loi numérique, le citoyen a eu la possibilité de contribuer. Et comme Thierry le soulignait, malheureusement, quand on regarde combien il y a eu de participation, il y a eu 6000 citoyens qui ont participé, ce qui montre encore une fois, effectivement, que de quelle démocratie parle-t-on ? Parle-t-on des experts de ces sujets qui peuvent s'exprimer là ? Et l'argument opposé par Axel Le Maire qui est de dire « je rends transparent les lobbying », les lobbying, on sait qu'ils passent par d'autres biais ou lieux ou d'autres médias pour intervenir, et que de ce point de vue-là, la supposée transparence du processus législatif que le numérique augmenterait est pour moi une sorte de leurre, parce que la transparence, qui est quelque chose qui vient aussi avec le numérique... finalement, elle n'a rien changé à ce jour à l'inefficacité du politique dans certains domaines. Et le citoyen réélit chaque année des gens qui ont été largement condamnés par les tribunaux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une espèce d'illusion collective sur la supposée transparence accrue que le numérique apporterait sur la construction des règles communes dont nous nous dotons et qui améliorerait considérablement l'efficacité de la production de la règle. Bon. Et donc là, j'ai un petit peu un doute sur ce que nous faisons, parce que je crains que cette démocratie ne soit le fait que d'un petit nombre, et donc à l'opposé même de l'idée même de démocratie. Et on voit ça également aussi sur cette transparence avec la politique d'ouverture des données, qui est un pour moi presque un dogme aujourd'hui politique, où on fait le présupposé qu'en ouvrant... les citoyens vont pouvoir s'emparer de ces données, vont pouvoir évaluer les politiques publiques, les critiquer et les améliorer. Bon, ça nécessite quand même beaucoup de médiation, notamment algorithmique, et dont je ne suis pas certain que nos concitoyens soient tous dotés. D'où l'enjeu, effectivement, à mes yeux, absolument crucial, qui consiste à dire croit-on véritablement une démocratie directe par les données ? Dans lesquels les citoyens pourraient s'en emparer. Je crois qu'il manque un intermédiaire, et j'ai bien essayé de réfléchir au sujet, et mon point de vue est de dire, aujourd'hui, il y a un discours pour dire que ce sont les start-up qui vont s'emparer des données et qui vont nous faire comprendre ce que l'on doit améliorer dans la politique publique. Mais les start-up, aussi intéressantes soient-elles, ne représentent pas les citoyens dans leur ensemble, et encore une fois, en quelle légitimité ont-elles à proposer un certain nombre de recommandations quant aux politiques publiques ? Elles ont tout à fait le droit de s'exprimer, hein, ça fait partie du processus. Mais le citoyen, comment va-t-il faire face à un jeu de données, aussi simple soit-il et sur les portails que le gouvernement s'emploie à déployer ou les collectivités s'emploient à déployer ? Les données par elles-mêmes, elles ne veulent strictement rien dire, elles n'ont aucune valeur intrinsèque. Et elles n'ont que de valeur que dès lors qu'on y applique un traitement, et un traitement algorithmique. Donc là, il y a un sujet de capacité, et c'est là où l'université a un rôle absolument majeur dans la construction de la citoyenneté, c'est dans la capacité que nous formons chez les personnes que nous accueillons dans nos universités à être en mesure de déployer des collectifs qui vont s'emparer de ces données et qui vont être capables de porter une analyse critique sur les politiques publiques que nous construisons et que nous, en tant que citoyens, nous souhaitons. Et donc là, il y a une sorte de médiation à construire au niveau des citoyens. Je ne crois pas du tout à l'individu qui va par lui-même résoudre les problèmes des politiques publiques ou les analyser. Et donc, je crois plutôt à une réintermédiation du politique par une construction de nouveaux savoirs autour de ces données.
Mais est-ce que je peux juste un petit peu rebondir sur ce que vous venez de dire ? Parce que finalement, je comprends bien, enfin, je crois que c'est assez clair, en fait, que, au fond, l'accès aux données n'est pas suffisant en soi et ne donne pas une approche, finalement.
Qu'a-t-on fait de plus que de prôner cette ouverture aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Mais du coup, si on veut essayer de réfléchir sur cela... la question finalement du simple citoyen et de l'expert, qui est quand même une question
qui est reposée autrement par le numérique.
Exactement, mais au fond elle reste identiquement.
Elle reste identique, sauf que les savoirs des experts, ils peuvent être construits par la foule, parce que justement la foule a des capacités à l'ère numérique qu'elle n'avait pas lorsque le numérique ne permettait pas aux citoyens de s'agréger. Tout comme ils s'agrègent dans des communautés d'idées dont on peut penser qu'elles sont destructrices de la démocratie, on peut justement initier un mouvement citoyen totalement différent dans la construction des règles collectives, et c'est ça qu'il faut construire. Donc c'est mettre en capacité les citoyens de le faire, et c'est un travail éducatif absolument central à mes yeux pour renouveler l'exercice démocratique.
Donc pour essayer juste de pointer, parce qu'évidemment c'est bien si on peut interpeller aussi, et peut-être d'abord l'enseignement supérieur et la recherche, Votre proposition, en fait, c'est de faire en sorte que l'enseignement supérieur et la recherche s'impliquent dans le fait de donner la capacité, finalement, aux futurs citoyens ou aux citoyens d'intervenir dans la co-construction, finalement, d'un ensemble de connaissances, et donc, finalement, d'utiliser, pour le coup, non plus l'aspect je retranscris des thèses toutes faites et qui sont souvent effectivement extrêmement discutables, mais j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice dans la construction d'un objet de connaissance.
Tout à fait. Et alors évidemment, ça commence pas à l'université, ça ne doit pas commencer à l'université, mais effectivement, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, ça ne peut pas se limiter au code. Et c'est bien ça, c'est une culture générale du numérique, où comprendre comment on passe des données à une connaissance est un enjeu absolument majeur, et c'est pas simplement de savoir programmer dans tel ou tel langage. C'est une culture générale nouvelle qui doit amener à faire comprendre aux citoyens que moi, j'ai la conviction personnelle que citoyen, c'est un métier, et que ça nécessite du temps, des capacités, et qu'il faut s'y investir, et que si l'éducation ne produit pas une partie de ses compétences, vers quelle démocratie va-t-on ? C'est peut-être celle qui est à ma droite et qui me fait peur. Voilà.
Avant de passer la parole à Thierry, oui. Peut-être une chose aussi pour, non pas pour être masochiste, on essaye de ne pas l'être, mais il est vrai quand même que cet apprentissage est rendu un tout petit peu compliqué aussi par le fait qu'une bonne partie de notre enseignement reste quand même assez décalée par rapport aux possibilités du numérique. Donc en fait, dans le même temps où on veut essayer de préparer des citoyens, il faut aussi qu'on rénove vraiment notre façon de transmettre le savoir. Thierry.
Oui, sauf que je crois que là, on bute sur des problèmes qui n'ont rien à voir avec la technologie. Par exemple, et je crois que Henri faisait d'une certaine façon aussi allusion à ça, on est aujourd'hui dans une démocratie qu'on peut appeler démocratie de l'expressivité, où ce qui est valorisé constamment, c'est j'ai une opinion et j'ai le droit d'avoir une opinion. Et mon opinion en soi, elle est bonne et juste, parce que c'est la mienne. Et on n'apprend pas suffisamment, et ça n'a rien à voir, enfin, c'est peut-être l'Internet rend les choses plus compliquées, mais on n'apprend pas assez probablement à comment je fais pour aussi accepter les opinions adverses. Comment je fais pour me confronter à des gens qui ne sont pas de mon avis et comment on dépasse cette adversité. Alors ça, c'est un peu un idéal, hein, on dirait une éthique de la communication à la Habermas, mais je crois que véritablement, c'est une difficulté qu'on a aujourd'hui. Alors on peut imaginer peut-être qu'à travers certains outils, certaines applications de l'Internet, on apprenne ça. Par exemple, Wikipédia, c'est d'une certaine façon un apprentissage de ça. C'est-à-dire il faut construire quelque chose qui a un bien commun, un bien collectif, avec des contributions diverses, et on voit que c'est difficile, qu'il y a des conflits, que parfois même ça neutralise complètement la capacité de produire quelque chose, parce que la page est neutralisée, parce que sur certains sujets c'est impossible, mais sur d'autres on arrive, c'est-à-dire on dit il faut faire des compromis, il faut chercher des preuves, des argumentations, des justifications, et c'est un petit peu cette culture qui est nécessaire. Si je peux me permettre une autre chose, dans toutes les tentatives aussi où on est assez déçu à chaque fois qu'on fait des consultations, des coproductions en ligne, donc on a un très faible nombre de contributions. Alors il y a le problème dont on va reparler probablement des ressources, des capacités, notamment à l'égard des outils numériques, mais il y a aussi un ingrédient essentiel dans toute action politique, c'est le temps. Le temps, c'est quand même capital. Si vous voulez participer à la vie de la cité, il faut avoir du temps. Quand vous êtes travailleur, quand vous êtes en plus, vous avez une ou deux heures de transport en commun chaque jour, vous avez une vie de famille, une vie sociale, où est le temps ? Donc, c'est pas étonnant que les activités politiques, finalement, elles se trouvent en quelque sorte réservées ou monopolisées par des professions qui ont un peu plus de temps ou qui peuvent pratiquer leur profession en même temps que faire de la politique. Les professions intellectuelles, on est au premier rang, évidemment. Hein. Et c'est pour ça que de plus en plus, et là on s'éloigne un peu de l'outil numérique, mais peut-être on y reviendra, que l'idée aujourd'hui d'un tirage au sort avance de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que c'est le moyen finalement qui permet d'associer le plus de citoyens d'origines très diverses à la chose publique. Et en même temps, cette idée de tirage au sort, elle se heurte profondément à toute notre tradition démocratique et républicaine, et beaucoup de gens disent « Ah non, jamais on construira une Assemblée nationale par tirage au sort, ça ne serait pas démocratique. »
Peut-être quand même, donc, sur ce que vous venez de dire, donc finalement, l'idée que cette démocratie de l'expressivité serait en tout cas très enrichie par le fait qu'on accepte ou qu'on puisse se donner les moyens d'accepter la diversité, l'altérité, et puis co-construire finalement. Un des exemples qui va complètement à l'opposé de ça, c'est le fait de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, il y a un enfermement finalement d'une communauté qui n'est apparemment, en tout cas, pas critique en quoi que ce soit de ce qui lui est proposé.
Oui, absolument. Moi, je fais le distinguo, si vous voulez, entre des entrepreneurs de politisation conspirationnistes, hein, des théoriciens du complot qui produisent ces contenus-là et qui les mettent en circulation et qui les diffusent, avec des gens qui sont passés de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qui sont vraiment des conspirationnistes convaincus, qui après le 7 janvier 2015 par exemple vont réaliser sur leur ordinateur une petite vidéo expliquant qu'on nous ment, que tout ça est un complot de l'État, etc. Et puis le ventre mou, si vous voulez, la grande majorité des gens qui peuvent être plus ou moins sensibles à ces choses-là, mais que je crois on peut encore rattraper par la manche, et à qui on doit apporter des réponses. Parce que, en soi, être ébranlé intellectuellement par des arguments complotistes, ce n'est pas un mal, si vous voulez. Ça arrive à tout le monde, à moi le premier, et simplement ça prend du temps que de les déconstruire, que de les critiquer. Et si vous voulez, je pense que ce travail-là, il est indispensable, et de toute façon, on n'y coupera pas. Parce que, si vous voulez, la solution qui consisterait à dire on va être dans l'intimidation morale, si vous voulez. En gros, les protocoles de suggestion, c'est conspirationniste, en plus c'est antisémite, c'est mal. Je pense que ça ne marche pas, si jamais ça a marché. La solution qui consisterait à traiter la chose uniquement par la dérision, par l'humour. Là aussi, on peut se faire plaisir, c'est une des bonnes manières, une des manières en tout cas d'essayer de contenir le phénomène, mais très franchement, je pense que ça ne convainc que les convaincus, quoi, hein. Et ça ne fait rire que nous. Je pense qu'à un moment, il faut effectivement, et là c'est vraiment un travail de journaliste, d'intellectuel, d'historien, d'universitaire, et puis de la société civile en général, que de se retrousser les manches et de discuter, de critiquer ces arguments complotistes pour y apporter des réponses, pour faire le départ entre le vrai et l'invérifiable, entre le vrai et le faux, parce que les contenus conspirationnistes ont cette spécificité d'être d'autant plus toxiques qu'ils mélangent le vrai et le faux, le vrai et la spéculation, quoi, hein. Et puis ce que vous pointiez là, c'était ce que Pierre-André Taguieff par exemple appelle l'asymétrie cognitive, hein, c'est-à-dire douter de tout sauf de ce que nous dit Thierry Messant, quoi, en gros, hein, pour résumer, c'est-à-dire on est très critique, très dubitatif sur ce qu'on appelle et ce qu'on stigmatise comme étant la version officielle entre guillemets, et en revanche on va gober de manière complètement acritique toutes les théories du complot, qui parfois d'ailleurs ont des arguments qui sont contradictoires entre eux. Bon, ça c'est encore une autre contradiction.
Alors, une réaction ?
Oui, parce que cette question de maintenir le débat et de démocratie discursive chère à Habermas est, je crois, essentielle. Ce qu'Internet a permis d'initier, c'est effectivement cet immense débat où j'ai un peu une lecture aussi que les élites intellectuelles découvrent que le peuple ne parle pas comme eux. Ça, c'est aussi souvent une vision qu'on entend, et que ça leur fait un petit peu peur, et que quand ça devient des thèses conspirationnistes, ça devient horrible et atroce, non pas que je les défende, loin s'en faut. Ce que je voudrais dire, c'est que pour le think tank que je représente a initié depuis plus d'un an une méthode et un outil qui s'appelle Seriously, et notre objectif est de fournir aux associations de défense des droits une plateforme pour lutter contre les propos haineux. Il n'y a malheureusement pas que le complotisme sur Internet qui s'y déploie, l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme et tous ces propos-là qui sont pénalement répréhensibles. Il y a une plateforme pour les dénoncer, c'est la plateforme Pharos, hein, je le rappelle. Mais ce qui nous semble important, c'est de maintenir le débat et comme tu le disais, d'aller dans la discussion pour contrer ces arguments-là. Alors c'est très compliqué, parce qu'on s'y est essayé et on a travaillé avec beaucoup d'associations de défense des droits pour construire cette plateforme. On s'est même appuyé aussi sur des méthodes de désescalade qui ont été imaginées par des experts du GIGN dans la négociation face à des preneurs d'otages. Donc on a vraiment travaillé aussi avec des universitaires sur comment on pouvait construire cette méthode. Et donc je pense qu'il est absolument fondamental de fournir des outils aux personnes qui veulent continuer ce débat et qui veulent contrer ces arguments. Et donc, évidemment, il nous a semblé qu'en tant que think tank citoyen, il nous appartenait de construire ces outils et de les fournir à des associations, parce que ce n'était pas à nous de le faire. Il y a des associations qui ont justement du temps, hein, comme tu le soulignais, il faut du temps pour passer du temps dans ces discussions et dans ces forums, et que c'est un enjeu démocratique pour nous fondamental, parce que laisser l'État dire bah voilà, on ferme ça, ou c'est aux plateformes, comme Christophe le soulignait tout à l'heure, qui vont s'occuper de cette régulation, c'est abaisser l'exercice démocratique. Et donc, c'est à nous de le faire. Voilà. Et donc, l'outil qu'on propose aux différentes associations, c'est un petit geste pour essayer de maintenir ce débat.
Thierry.
Je voulais réagir à ce qui a été dit là sur et peut-être pointer une difficulté vraiment à lutter contre les, de façon générale, les idées fausses ou trompeuses. En prenant l'exemple de la campagne américaine et de voilà, où vraiment beaucoup de médias, de spécialistes, de sites de fact-checking se sont appliqués à contredire Trump en disant « il raconte n'importe quoi, il dit des mensonges en permanence ». Et donc on s'est aperçu que le fact-checking, hein, c'est-à-dire la tentative pour établir un minimum de vérité, ça ne fonctionne absolument pas. Parce que finalement, une partie des citoyens ne sont pas du tout dans la rationalité. Et dans la recherche d'informations rationnelles, ils sont plutôt, je ne dirais pas vraiment dans l'émotion, mais plutôt dans l'affirmation identitaire. Et on le voit, alors pas seulement sur des questions racistes ou d'immigration, mais même, on voit même sur des questions comme par exemple les vaccins, où on a beaucoup aussi là de rumeurs, d'idées, avec des oppositions grandissantes dans certains pays aux vaccins, contre tous les principes de santé publique. Et on sent bien que derrière, c'est quelque chose d'irrationnel, enfin, pas irrationnel, parce qu'il y a toujours une rationalité dans l'irrationalité, mais de recherche, de dire j'existe en tant que groupe qui, par exemple, s'oppose à l'emprise de l'État sur ma vie privée, des choses comme ça. Et c'est peut-être là-dedans qu'il faut aller rechercher les solutions, et c'est extrêmement difficile.
Si je peux juste donner un commentaire là-dessus, ça nous éloigne un tout petit peu du numérique, mais c'est vrai que le numérique amplifie ça. Ce qui est vrai, c'est que la rationalité est quand même difficile à tenir par rapport à toute une série de gens, dans la mesure où, effectivement, ce qui est propagé, ce qu'il propage, qu'il aurait fourni, évidemment, d'une certaine façon, peut les conforter dans une position qu'ils affirment. Si je vais donner un exemple, que vous connaissez peut-être même mieux que moi, mais quand on dit, par exemple, que l'immigré, c'est l'ennemi parce que c'est lui qui vient récupérer l'aide sociale en France, et qu'en fait, quand on fait le calcul économique du fait que, au fond, c'est exactement l'inverse, d'une certaine façon, c'est-à-dire que la participation des immigrés à l'économie et au système social français est plutôt enrichissante de l'État et de l'économie qu'autre chose, enfin même largement. C'est vrai que cette rationalité-là, qui a des bases scientifiques, enfin des bases objectives, elle est difficile à faire partager à des gens dont l'objectif individuel ou collectif est justement de dire bah, c'est d'abord nous les Français, et c'est d'abord cette identité-là qu'on cherche à amener. Donc c'est pas tellement émotionnel, encore qu'il y a une dimension émotionnelle.
Il y a une dimension émotionnelle, parce que les mêmes gens qui n'adhéreront pas à ce raisonnement pourront accueillir volonté des immigrés parce que leur grand-père a été immigrant, et que quelque part ça entre en résonance avec leur histoire familiale. Donc voilà, c'est un peu compliqué en effet.
Rudy ?
Non, je crois que il faut peut-être nuancer le constat, parce que ok, Donald Trump a été élu, il a été élu avec, il n'a pas gagné le vote populaire malgré tout. Non, mais alors, c'est un autre mode. Il y a une dynamique qui est incontestable. Il y a une dynamique qui est, elle est incontestable. Pour autant, je pense qu'on a raison de chercher à essayer de contrer rationnellement ces choses-là. On peut essayer de ne pas le faire du tout, et peut-être que ça aurait été pire du coup. On ne peut pas refaire les élections américaines et dire ce qu'elles auraient été. Moi, je crois qu'il faut, si vous voulez, agir de plusieurs façons sur le problème des fausses nouvelles en général, des fausses informations, des intox, du complotisme. Il y a la société civile qui a son rôle à jouer. Je crois que fondamentalement, il faut renverser, si vous voulez, ce qui fait l'attrait fondamental des théories du complot, c'est-à-dire cette idée que que les psychologues sociaux appellent le besoin d'unicité, c'est-à-dire le besoin de se distinguer. L'idée que moi j'ai compris le dessous des cartes, j'ai compris, on me l'a fait pas, quoi. On me l'a fait pas. Je suis un initié et donc je vois plus loin. Je vois ce que vous, les moutons, puisque nous sommes tous des moutons pour les conspirationnistes, que ce que vous, vous ne voyez pas. Et je crois que ça, il faut le renverser en faisant la démonstration que ne pas être dupe, c'est avant tout ne pas être dupe des théories du complot, c'est-à-dire des tentatives de manipulation, d'entrepreneurs de politisation qui, eux, ont un agenda politique, idéologique assez clair. Et pour ça, de retourner contre la théorie du complot, sa question rituelle, c'est-à-dire à qui profite ? À qui profite ces théories du complot ? C'est vraiment, on est dans un combat politique et idéologique. Alors, est-ce que Facebook, est-ce que Twitter sont des acteurs politiques ? Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je les ai envisagés comme des champs de bataille, c'est-à-dire comme des terrains de jeu sur lesquels il faut aller, qu'il faut investir pour pouvoir essayer de contrer, autant que faire se peut, cette propagande qui si vous voulez, ce sont des arènes, et dans cette arène, on joue non seulement à 1 contre 100 ou à 1 contre 1000, mais en plus avec une main dans le dos attachée, parce que, évidemment, on ne peut pas se battre avec les mêmes armes, avec les armes de la diffamation, de la calomnie et du mensonge. Voilà.
Alors, bon, peut-être pour. Parce qu'il ne nous reste plus finalement tant de temps que ça, mais. Bon, on a vu finalement un constat, qui est un constat, je pense, assez contrasté, hein, c'est-à-dire à la fois avec le fait que. On peut finalement probablement utiliser dans des éléments de co-construction les outils du numérique, et il faut le faire, et qu'en même temps ce sont des éléments qui peuvent être utilisés dans une forme entre guillemets d'enfermement, et que la rationalité finalement n'est pas si facile que ça à opposer à cela. Donc comment est-ce que vous voyez les choses, c'est-à-dire d'une certaine façon Henri tout à l'heure évoquait une forme d'illusion finalement à penser que le numérique en tant que tel soit une solution, parce que finalement il faut construire autre chose, certes utilisant le numérique, mais une autre forme finalement d'accès à une construction démocratique, etc. Donc comment vous voyez ça, avec peut-être aussi une question annexe qu'on a un tout petit peu évoquée déjà, c'est quelle peut être la contribution de l'enseignement supérieur, enfin pas que de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, parce qu'on peut quand même imaginer que ça monte très loin. Les phénomènes qu'on évoquait tout à l'heure de non-rationalité, ils touchaient aussi des gamins de 12 ans, hein, voire plus jeunes. Donc comment vous voyez ça, et quel finalement peut être notre rôle, à la fois individuel et aussi peut-être comme représentant des institutions d'éducation et d'enseignement supérieur ?
Bon, moi je crois qu'il ne faut pas être désespéré. Au contraire, il faut comprendre qu'on a un rôle assez crucial à jouer à mes yeux. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment, parce que je ne suis pas certain que l'université soit suffisamment ouverte à la société civile. Et ça, pour moi, c'est quand même aujourd'hui... C'est la base de mon engagement dans un think tank en dehors de l'université, parce que je pense qu'être dans la cité, ça devrait être naturel pour tout enseignant-chercheur que nous sommes, et ça ne l'est pas vraiment. Hein, on est finalement un très petit nombre à être... investis dans des partis politiques ou dans des associations ou dans des think tanks. Voilà. Ça, je le déplore. Et en même temps, c'est pas reconnu non plus à l'université. Je pense que si on veut faire carrière à l'université, il faut surtout pas faire ça, quoi. Bon. Donc il y a une rationalité à ce que les collègues le fassent pas. Je la comprends. En même temps, je la déplore complètement. Et en même temps, il faut l'ouvrir, l'université, sur la société, et qu'elle y joue un rôle davantage. Dans les débats sur les questions complotistes, sur toutes les haines qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, l'université construit des savoirs, construit des connaissances, peut être à la base de contre-discours, peut fournir des outils et des méthodes, et donc on a un rôle absolument majeur à jouer. Moi, je tire la sonnette d'alarme en disant il faut sortir des universités, il faut aller dans ces espaces publics de discussion et que chacun y prenne sa part. Voilà, sur la partie formation, bah oui, la littératie numérique, c'est juste fondamental. Si on s'en occupe pas et qu'on fournit simplement une formation à des outils, on passe à côté du sujet. Donc savoir coder, c'est ok, mais c'est pas suffisant, c'est bien plus que ça. C'est une culture numérique qu'il faut lier à une culture civique, et comprendre qu'est-ce que c'est qu'un citoyen à l'ère numérique. C'est personnellement, pas avec les cours d'instruction civique telles qu'ils sont dispensées aujourd'hui, et je vois ce que mes enfants ont reçu, où ces aspects-là ne sont absolument pas compris, c'est-à-dire comment s'exprime et qu'est-ce que cet citoyen à l'ère numérique. C'est pas dans les programmes d'aujourd'hui d'instruction civique du secondaire. Et il y a en plus des exercices pratiques à faire aux enfants pour leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire être citoyen dans ces espaces-là. Et par ailleurs, ils ont effectivement une pratique, et nos étudiants l'ont aussi, dans ces espaces sur lesquels on peut s'appuyer. Et Dieu sait si ils ont une agilité dans certains des espaces que certains de nos collègues n'ont pas, et que je pense qu'on peut largement construire des savoirs, des connaissances et des compétences pour vraiment former les citoyens à l'ère du numérique.
Donc ça, peut-être on pourrait le formuler si on essaye de faire émerger des propositions en quelque sorte. Si j'essaye de résumer votre propos, c'est ouvrir l'université sur la société. Et c'est vrai que c'est une question quand même qui est importante parce que au fond, il y a aussi, du point de vue de l'université, un petit enfermement dans son monde qui est peut-être déconnecté d'un certain nombre de réalités. La deuxième chose que vous dites, et c'est quand même assez frappant, je n'avais jamais complètement réfléchi comme ça, mais au fond, on a des essais d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, entre guillemets, finalement, à l'école, peut-être un peu au collège, mais au fond, l'université, ensuite, on est dans un espèce de silo disciplinaire, et cette question-là peut-être...
Ça reste, enfin, vous êtes par la vie étudiante et les associations étudiantes, il n'y a rien. Quoi.
Exactement, mais ça, d'une certaine façon... Peut-être que nous, on peut le soutenir comme institution, le développer et aussi essayer de le connecter aux préoccupations qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire du fait que, en fait, c'est des éléments fondamentaux de construction de la société par la citoyenneté. Thierry, Rudy ? Oui.
Plusieurs choses. Là, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a une pétition de scientifiques européens et américains sur les perturbateurs endocriniens, et donc qui a rappelé cette importante notion aujourd'hui qu'on appelle, enfin, cette idée de ce phénomène qui est celui de la fabrication du doute, la manufacture du doute. Et je crois que là, on doit aussi s'interroger sur nos propres pratiques en tant qu'enseignants. Est-ce qu'on n'a pas trop fabriqué du doute également dans l'université? Et par définition, moi je suis plutôt dans les sciences sociales, et donc dans les sciences sociales, évidemment, on va en permanence dire que ce qui prime, c'est le social, que beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes qu'on observe sont des construits sociaux. Et donc, progressivement, on accrédite un petit peu l'idée qu'il n'y a que du construit social. Et par exemple, dans l'éducation aux médias, pendant très longtemps, ce qu'on a fait, par exemple auprès des lycéens, on leur a dit, regardez, tel sujet, il est traité de façon différente par tel et tel et tel et tel média qui a des représentations de la réalité. Mais sans dire que ces représentations de la réalité, elles étaient plus ou moins distantes de la réalité, qu'il y avait aussi des procédures, des protocoles pour observer la réalité, qu'on pouvait le faire de façon plus ou moins approximative, en s'appuyant ou non sur des méthodes. Et je crois que c'est ça qu'il faut un petit peu réhabiliter, hein. C'est-à-dire bien faire comprendre qu'en effet, nous fonctionnons avec beaucoup de représentations sociales, mais ces représentations sociales, elles doivent avoir une relation avec une matérialité, avec une réalité, et qu'il y a des procédures, qu'il y a des démarches, notamment scientifiques, pour approcher cette réalité.
Rudy ?
Oui, pour conclure, on est dans une société de défiance. Hein. Le conspirationnisme, il traverse toute la société, toutes les couches sociales, toutes les CSP et toutes les tranches d'âge également. Même s'il est plus sensible chez les jeunes, effectivement, c'est ce qui paraît. Mais quelles sont les trois grandes instances d'autorité qui sont mises à mal à travers le discours conspirationniste ? L'État, le pouvoir en général, politique, la presse et la science. Ce sont ces trois paroles d'autorité qui sont vraiment contestées par le discours complotiste. Et donc je crois que l'effort il doit être fait dans ces trois directions. Une pédagogie du pouvoir, c'est quoi en démocratie le pouvoir, comment ça fonctionne, la prise de décision, c'est quoi les contre-pouvoirs qui garantissent exactement pourquoi c'est difficile, pourquoi il y a des résistances, pas parce qu'il y a forcément un complot dans les coulisses de l'histoire ou parce que la démocratie est un théâtre d'ombre, mais parce qu'il y a des résistances tout simplement qu'on peut expliquer, historiques, politiques, etc. pédagogie du savoir, comment ça fonctionne, la construction d'un savoir scientifique. Et là, je pense à tout, vous savez, toutes les thèses climato-sceptiques. La plupart des jeunes, et je dirais même des gens, ne savent pas nécessairement comment se construit un savoir scientifique. C'est-à-dire que ce processus de validation par les pairs, la publication dans des revues à comité de lecture, qui garantissent, autant que faire se peut, encore une fois, c'est pas parfait, c'est une œuvre humaine, mais qui garantissent qu'on essaie de marginaliser le plus possible l'erreur, voilà, et de revenir dessus le cas échéant. Et puis enfin, une pédagogie de la presse, des médias, comment on sélectionne, on hiérarchise l'information, comment on travaille, comment on recoupe, comment on vérifie l'information, comment fonctionne une rédaction, tout simplement, d'un journal, le rapport entre les actionnaires et la rédaction. Tout ça, ce sont des choses qui, à mon avis, dont on aurait tort de penser qu'elles sont très familières pour les plus jeunes, c'est-à-dire les collégiens, lycéens et étudiants. Et je crois que c'est vraiment des pistes à creuser.
Absolument, juste pour vous faire partager, alors ça nous éloigne un tout petit peu du numérique, mais on est au cœur du sujet qu'on aborde là. Je pense qu'effectivement, dans cette éducation-là, il y a des initiatives qui peuvent être prises. Je vais juste en prendre une, parce qu'on a essayé de le pousser un petit peu à Grenoble depuis quelques années. C'est une unité d'enseignement transversal sur l'esprit critique. Et donc, en fait, c'est très connecté à ce qu'on appelle la zététique et au fond, la rationalité, justement. Et c'est l'UET qui est la plus suivie sur le campus. On est obligé de prendre le plus grand amphithéâtre pour faire ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est co-construit avec les étudiants et les enseignants qui participent à ça. Et je pense que c'est un assez bon exemple, même si ce n'est pas directement sur le numérique, de ce qu'on discute là, pour justement essayer de comprendre comment on peut à la fois faire avec le doute qui est nécessaire, mais aussi avec la construction du savoir et comprendre comment ça se... Alors, pour finir peut-être, parce qu'il nous reste quelques minutes avant qu'on conclue, donc finalement, comment est-ce qu'on peut essayer de formaliser ce qu'on peut appeler l'éducation à l'information, la citoyenneté numérique, sur tous les champs que vous avez évoqués? Quelles sont les propositions un petit peu concrètes, finalement, que vous pourriez faire? Il y en a déjà eu un certain nombre sur l'ouverture de l'université sur la société, sur un certain nombre d'aspects, mais peut-être plus pour résumer, comment vous pourriez le concrétiser?
Apprendre à débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Quand est-ce qu'on le fait dans le système éducatif français? Sincèrement, réfléchissez à ce que vous avez fait, à ce que vous avez eu comme formation. Quand est-ce que vous faites ça? Comment est-ce qu'on crée cette éthique de la discussion? C'est quand même le sujet fondamental. L'Internet le permet sur tous les sujets et à n'importe qui. A-t-on vraiment formé nos étudiants lorsqu'ils passent chez nous à ces sujets-là? Je ne le crois pas vraiment. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut largement faire. Je vous l'ai dit, je pense que l'instruction civique au collège et au lycée, elle peut largement être, plutôt que d'être descendante dans une espèce de transcendance laïque, elle pourrait être largement pratique parce que exposer des problématiques de débat démocratique dès le lycée, Dieu sait s'il y a des occasions de le faire. Et donc, moi, j'appelle vivement au fait qu'on ne sépare pas la formation au numérique et l'instruction civique, mais qu'on les réfléchisse ensemble.
Très bien. Rudy, Thierry.
Non, mais moi je ne suis pas un spécialiste des questions d'éducation. Sur le débat, quand même, je rajouterais une chose. Je pense que, oui, évidemment, favoriser l'éthique de la discussion, l'esprit critique, ne pas confondre doute méthodique, doute raisonnable, et puis le doute hypercritique, qui est vraiment un doute dogmatique, pour le coup, qui vous enferme dans autre chose. Pour autant, je ne suis pas favorable moi-même, je ne le fais pas, avec l'idée de débattre avec des conspirationnistes professionnels, par exemple. Vous voyez, débattre publiquement, parce que ça inclut un tiers à convaincre, et il n'est pas dit que la vérité en sorte triomphante. Donc je suis assez peu favorable à ça en général. Après, faire naître chez les jeunes en général, évidemment, une éthique de la discussion pour construire un débat en commun, pourquoi pas, évidemment.
Thierry.
Oui, Déjà, le défi est énorme, là. Parce que, bon, il y a, dans 15 jours, on va avoir il y a un forum qui va être organisé dans le cadre du Digital Society Forum. C'est Orange hein, qui organise tout ça. Ils ont fait réaliser une enquête. Malheureusement, je ne peux pas citer de façon très précise les résultats, mais quand même, il y a 2/3 des personnes interrogées en échantillon représentatif de la population française, malgré toutes les limites des sondages, qui est en gros 2/3 des personnes qui disent la révolution numérique, c'est une illusion. Parce que, notamment, parce que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux ou avec les formes d'engagement en ligne. Voilà. Et donc, finalement, la réponse, là, elle n'est pas tellement du côté des outils, elle est plutôt la réponse des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques. Donc, il y a une défiance énorme à l'égard du politique, commencer à l'égard des médias, à l'égard de certaines autorités hein, scientifiques. L'autre chose aussi, qui est peut-être réconfortante aussi, parce qu'on met beaucoup d'espoir toujours dans les outils numériques pour les jeunes, parce qu'il y a un petit peu cette idée-là. Pour les jeunes, les outils numériques sont en quelque sorte quelque chose de natif. Hein. On a une génération qui est aujourd'hui née avec Internet. On se dit, bah, du coup, ça va les familiariser davantage ou les intéresser davantage à la politique. En même temps, il faut bien se dire que, sauf pour une petite minorité de jeunes, la politique, c'est quelque chose de relativement étranger. Hein. Entre 20 ans et 30 ans, on a plein d'autres choses, on a plein d'autres sujets de préoccupation, plein d'autres domaines d'intérêt, plein de choses à faire. Et la politique, du moins la politique au sens institutionnel, c'est une préoccupation mineure. Et c'est en vieillissant qu'on s'implique de plus en plus dans la vie politique. Et d'ailleurs, on va avoir une sorte de paradoxe. Hein. Moi, je peux vous le prédire. Et déjà, on voit des signes sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les plateformes. Ceux qui s'intéressent à la politique, c'est un public vieillissant.
C'est même ceux qui votent aux primaires, si j'ai bien compris.
Pardon ?
C'est même ceux qui votent aux primaires.
Voilà. Oui, aussi. Ils ont et donc, du temps. Voilà. Donc, quelque part, les jeunes vont devenir vieux et donc ils s'intéresseront davantage à la politique. Et voilà, il faut se dire aussi ça, peut-être pour se réconforter.
Très bien. Mais je crois que ce que vous avez, je crois, bien démontré, c'est que finalement, cette question de la citoyenneté numérique n'est pas une question technique, c'est une question éducationnelle et sociétale et politique. Qui impose évidemment qu'on devienne un citoyen. Moi, j'ai apprécié l'idée que citoyen soit un métier. Finalement, c'est assez...
Je ne sais pas si c'est réconfortant ou pas. Hein, parce que
en tout cas, c'est un constat.
C'est un constat.
Voilà. Et donc, je pense aussi que dans ce qui a été dit pendant ce débat, il y a un certain nombre de défis qui interpellent l'université comme une institution et qui l'interpellent aussi dans son rapport à la fois à la société et aux citoyens. Merci beaucoup.
Peut-être avant que nous n'allions déjeuner, je proposais que le cas échéant, si parmi les personnes présentes, certains souhaitaient poser une question à vous qui avez fait vivre cette table ronde ou aux collègues qui ont été dans la première, nous pouvions nous donner un temps de 5-10 minutes, en tout cas pour être sûr qu'aucune question ne reste rentrée, qu'aucune frustration pour un échange sur un point particulier ne sera... Non. À vrai dire, vous étiez tout entier dans vos échanges et la première table ronde aussi, mais les tweets ont fusé et beaucoup de commentaires, de synthèses, de suggestions ont émaillé les débats. Voilà, donc il y en a eu beaucoup et on peut supposer que ce faisant...
Stéphane.
Alors.
Une question qui m'a inspiré vos débats. Est-ce qu'un des premiers actes éducatifs que l'on pourrait imaginer dans l'avenir, c'est comment finalement, tout au long du processus de formation de l'école primaire à l'enseignement supérieur, voire tout au long de la vie, on pourrait apprendre à devenir le gestionnaire ou le propriétaire déjà, puis après le gestionnaire de nos données personnelles, aussi bien dans le domaine de la santé qu'administrative, qu'éducative. Est-ce que ça, c'est pas un acte éducatif fort que l'on pourrait porter ? C'est une question, c'est très ouvert.
Vous avez une réponse, messieurs.
Oui, bien sûr. C'est effectivement quelque chose d'important. Mais encore une fois, faisons attention au fait que les compétences du numérique ne sont pas forcément purement technique et que c'est les enjeux politiques, sociétaux et démocratiques qu'il faut apprendre. Donc pour ça, moi, je refuse qu'on sépare instruction civique et numérique. Je pense que là, il y a vraiment un vrai sujet pédagogique de dire comment on construit un citoyen numérique et pas simplement uniquement au travers de ses données. C'est comment je vais apprendre à participer à la cité. Et la cité, c'est forcément du débat. Et comment on fait ça? Et pas simplement, à l'ère des chatbots, apprendre à répondre à un bot dans Messenger, quoi. C'est plus que ça. Et donc, ça nécessite quand même de mobiliser des compétences et des savoirs transversaux. C'est pas notre grand fort, hein, quand même, à l'université.
Si je peux juste rebondir sur la question de la santé. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est intéressant finalement de se dire comment on va gérer ces données de santé. J'ai peur malheureusement que là aussi, ça ne soit pas vraiment une question technique, c'est-à-dire que la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment finalement, qui va maîtriser ces données, comment elles vont être collectées, et comment elles vont transformer, à mon avis, radicalement, la relation entre soignés et soignants. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les sociétés, les plateformes dont on parle, pour l'essentiel, sont déjà emparées de ça. Et j'ai peur que ça nous échappe assez largement.
Et pareil, on parle beaucoup d'algorithmes, mais dans les algorithmes, ce qui est intéressant, c'est la vision du monde qui est dans l'algorithme. Ce n'est pas le codage. Parce qu'en effet, on va mettre à mal quelques-uns des principes même de la démocratie, par exemple l'égalité entre citoyens. Dans le domaine de la santé, de façon plus générale, on va de plus en plus vers une société basé sur la probabilité, où en permanence, le traitement qu'on recevra de la part des services publics, de la part des services commerciaux, dépendra de notre passé, de nos probabilités de comportement en fonction des données historiques.
En fait, il y aura effectivement, on ne va pas insister trop, mais une évaluation du risque et probablement une mise en œuvre de l'accès aux soins qui sera dépendante de cela, ce qui est extrêmement inquiétant.
Oui. Si je peux juste apporter aussi des éléments là, au titre de la CNIL, parce que je crois qu'il y a aussi des modèles alternatifs qui commencent à être expérimentés. Je pense notamment au modèle de la FING. La première étape, c'était Mes Infos. Et justement, ils se lancent dans d'autres expérimentations autour de la santé, justement, dans une optique de permettre à l'individu donc d'avoir une meilleure maîtrise sur ses données personnelles de santé. Et donc, c'est notamment mené en partenariat avec la MAIF. Donc, je crois que ces projets sont tout à fait intéressants à suivre. Simplement, ils demandent à être soutenus et ça demande aussi un accompagnement du point de vue de la recherche. Et donc, en ce domaine, malheureusement, je trouve qu'il y a peu d'équipes de recherche, notamment multidisciplinaires, qui se mobilisent sur ce sujet des données personnelles et d'une meilleure maîtrise des données personnelles.
Il y a une autre question ici. Il y a une autre question.
Bonjour, Louise Merzeau de l'Université Paris-Nanterre. J'aurais aimé, sans ouvrir un débat qui pourrait être évidemment beaucoup plus long, mais avoir votre sentiment sur cette table ronde et peut-être sur la précédente aussi, sur le degré, je dirais, de compatibilité entre cette nécessité d'une éducation à la citoyenneté et les exigences de plus en plus pressantes de professionnalisation des formations que l'on entend souvent comme essayer de faire entrer les étudiants dans des moules déjà tout prêts, en particulier dans les métiers justement de l'économie numérique, et donc surtout pas de leur permettre le moindre pas de côté, la moindre distance critique, et finalement ne portant souvent pas beaucoup sur la compréhension des environnements eux-mêmes.
C'est presque peut-être une question pour les présidents d'université. Jean-François, tu veux répondre? Non, je pense que c'est une bonne remarque. Après, moi, j'ai un peu de mal à entendre. Je comprends ce que vous dites, puis je subis aussi. Enfin, je suis d'accord. Mais j'ai un peu de mal à entendre que l'esprit critique soit un handicap pour le monde économique, par exemple. C'est, à mon avis, une compétence. Et je pense que si on se bat pour dire ça, pour dire en fait que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus en... Voilà, je pense qu'on peut convaincre assez facilement... Voilà, en plus, oui.
Et au fond, la question que pose Louise sera reprise tout à l'heure, puisque c'est au fond la question de savoir si nous sommes capables d'introduire dans les enseignements qui sont délivrés à l'université, notamment, à quelque niveau que ce soit, cette dimension-là. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables d'intégrer dans les cursus que nous pensons, dans les... on est évidemment, je crois, frappé, ça a été répercuté sur Twitter par ce qui est mis en place à l'Université Grenoble-Alpes, cette UE transversale sur la zététique, par exemple, c'est très intéressant, parce que ça peut être un modèle dont nous pourrions nous inspirer pour effectivement travailler sur cette formation transversale à la certaine culture de l'esprit critique et la mise en... Voilà, tout ce dont vous avez parlé.
Si je peux juste faire un commentaire là-dessus, ça ne laisse pas indifférent. Hein, c'est-à-dire que cette transversalité heurte aussi un certain nombre d'éléments disciplinaires parce que nécessairement, on n'est pas le philosophe spécialiste d'eux pour faire ça. Enfin, je ferme cette parenthèse. Hein, mais
ce qui est bon signe, si ça heurte.
Je pense que c'est bon signe. Une autre question.
Oui, en fait, c'était une remarque plutôt sur l'idée de... La question de Louise Merzeau, c'est il y a des nouveaux diplômes en humanité digitale qui commencent à émerger. Il y a une transformation profonde, en fait, dans le fait d'aborder l'illittératie. Et il me semble que si on considère que la littératie, c'est la culture les sciences de l'écrit de manière large, en fait, on peut pénétrer, disons, une transversalité de facto et casser la logique de silo dont vous parliez tout à l'heure. Et il me semble que là, il y a une progressivité, en fait, une progression possible dans l'admission, de cette figure du lettré digital dont je parlais tout à l'heure, ou avec différents moments. Le moment de création de diplômes, qui est le moment contemporain, touche les gens, les spécialités qui sont liées à des corpus. Mais en fait, quelles sont les sciences qui ne sont pas liées à des corpus? Vous voyez ce que je veux dire? Et même, y compris dans les expérimentations, évidemment, on a des corpus, on a une littérature. Et je crois qu'il y a là, en fait, tout un champ à faire avancer autour des littératies en comprenant que derrière, ce sont les sciences de l'écrit qui ne sont pas réductibles à la linguistique. Parce que là aussi, on a, tout à l'heure, a été cité, deux fois à Habermas, c'est-à-dire ce qu'on appelait le linguistic turn. Dans les sciences humaines et sociales, ça a été fondamental. Aujourd'hui, évidemment, il y a un autre tournant qui est le tournant du digital. Et je pense que là, disons, on pourrait progressivement faire accepter aux disciplines la nécessité des littératies.